Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jérôme Longuet pour ce journal de la Radio des Nations Unies. Avec en titre la réunion de haut niveau sur le climat réunie à New York, nous entendrons Laurent Fabius, l'ONU qui condamne une fois de plus les violences commises à Gaza l'été dernier, le Conseil de sécurité qui renouvelle les mandats des missions au Mali et au Darfour, dans le dossier coup de projecteur sur les élections au Burundi, et puis ce sera l'heure de retrouver votre rendez-vous hebdomadaire de Fréquence Santé. On commence donc avec la réunion de haut niveau sur le changement climatique. Devant les chefs d'État, de gouvernement et les ministres présents à New York, le secrétaire général des Nations Unies a estimé que toutes les conditions sont réunies pour adopter un accord universel au mois de décembre à Paris. Ban Ki-moon qui s'est félicité de l'annonce par les deux plus gros émetteurs de gaz à effet de serre d'ambitieuses actions concernant le climat. D'autres pays, comme la France, ont affiché leur intention d'assumer leurs responsabilités. On écoute le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius.
Il est totalement fini le temps où la réalité du changement climatique et son origine humaine pouvaient être contestées. Aujourd'hui, il est clair que nous savons. Nous savons les effets dévastateurs pour la planète d'un réchauffement supérieur à 1,5 degré ou 2 degrés. Nous savons pas seulement les effets climatiques, mais ceux sur la santé publique, sur le développement, sur la sécurité et sur la paix. Nous savons aussi les effets très positifs sur la croissance durable, qu'aura une action réussie vers une économie nouvelle et moins carbonée. Dans cette enceinte des Nations Unies, la communauté internationale est confrontée depuis maintenant 70 ans à des crises complexes, souvent extrêmement graves, mais géographiquement circonscrites. Nous savons que, avec le dérèglement du climat, la menace est désormais planétaire et qu'aucune région, je dis bien aucune, n'échapperait aux conséquences de notre inaction.
La commission indépendante d'enquête des Nations Unies sur le conflit à Gaza a une nouvelle fois dénoncé toutes les violations du droit international humanitaire après avoir réuni des informations substantielles mettant en évidence de possibles crimes de guerre commis par Israël et par les groupes armés palestiniens. Devant le Conseil des droits de l'homme, la commission a indiqué que l'étendue des destructions et des souffrances observées l'an passé dans la bande de Gaza est sans précédent. Alpha Diallo.
La présidente de la commission d'enquête internationale indépendante a décrit des tactiques militaires pour le moins troublantes lors du dernier conflit de Gaza. En cause, le moment de l'attaque, le choix des armes utilisées dans des zones densément peuplées et le fait que les bombardements se soient poursuivis pendant un certain temps. Dans ces conditions, Mary McGowan-Davis se demande s'il ne s'agit pas d'une politique globale qui a pour le moins été approuvée au plus haut niveau du gouvernement. Pour la commission, quelles que soient les raisons pour lesquelles beaucoup de civils sont restés chez eux, malgré l'avertissement d'Israël, cela n'en faisait pas des cibles militaires. La commission a également dénoncé les tirs indiscriminés de milliers de roquettes par les Palestiniens visant à répandre la terreur parmi les civils israéliens. Elle a aussi dénoncé les exécutions sommaires et extrajudiciaires de Palestiniens soupçonnés de collaboration avec Israël. Au final, la commission indique que ces violations sont susceptibles d'être des crimes de guerre perpétrés à la fois par Tel Aviv et les groupes armés palestiniens. Alpha Diallo, Genève, pour la Radio des Nations Unies.
L'UNRWA, justement, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, qui a annoncé qu'il lui est impossible de maintenir 85% des contrats à court terme du personnel international. L'agence a donc pris ces mesures afin d'épargner le plus possible ses services envers les réfugiés. Tsige Chiferaou.
Avec un déficit de plus de 100 millions de dollars cette année, l'UNRWA se veut malgré tout rassurante dans sa recherche de fonds. Dans un communiqué, l'agence a expliqué qu'avec les mesures d'austérité déjà mises en place, il lui sera possible de poursuivre ses opérations d'urgence jusqu'à la fin de l'année. Cela comprend notamment les programmes liés à la santé, l'hygiène, l'aide sociale et les opérations d'urgence. Selon UNRWA, des fonds sont encore disponibles pour ces projets. En revanche, le système scolaire de l'agence, essentiel pour les quelques 500 000 enfants à travers le Moyen-Orient, en Jordanie, au Liban, dans les territoires occupés palestiniens et la Syrie, risque d'en pâtir si le déficit n'est pas comblé dans les prochaines semaines, a expliqué Chris Gunness, porte-parole de l'UNRWA, dans un communiqué.
Le mois de mai a été le pire depuis le début du conflit en Syrie, c'est ce qu'a affirmé ce matin la sous-secrétaire générale aux affaires humanitaires qui a exhorté le Conseil de sécurité à insister sur un règlement politique du conflit. Kyung-Wha Kang a aussi demandé la levée du siège imposé à plus de 420 000 personnes dans le pays. Depuis ses débuts, le conflit a fait 220 000 morts, plus d'un million de blessés, 7,6 millions de déplacés et plus de 4 millions de réfugiés. Damien Bonelli.
Devant les 15, la sous-secrétaire générale aux affaires humanitaires a indiqué que la violence se poursuit dans une impunité absolue en Syrie. Elle a notamment dénoncé l'emploi de bombes barils par le gouvernement à Alep. Et s'est inquiétée de la grave détérioration, la semaine dernière, de la situation à Kobani Ain al-Arab, suite aux attaques lancées par l'État islamique pour reprendre le contrôle de cette ville. Kyung Wha Kang s'est aussi alarmée du fait que seulement un quart de l'appel humanitaire pour la Syrie a été financé à ce jour. Le programme alimentaire mondial a déjà réduit de 30% les rations de vivres qu'il distribue à des millions de personnes. Et d'autres coupes sont à prévoir si rien ne change. Alors que la Turquie, la Jordanie et le Liban continuent d'assumer la plus large part du fardeau des réfugiés, Kyung Wha Kang a en outre jugé crucial que d'autres pays accueillent les Syriens qui cherchent refuge.
Les 15 qui ont aussi prorogé jusqu'au 30 juin 2016 le mandat de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Par la résolution 2227, les 15 demandent à toutes les parties de s'acquitter des engagements pris au titre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, une décision dont s'est félicité le représentant permanent du Mali, Sékou Kassé, qui a annoncé que son gouvernement va mettre en place un dispositif national chargé de la mise en œuvre de l'accord.
Il serait fort dommageable que tant d'efforts consentis soient compromis par des ennemis de la paix qui multiplient des actes terroristes partout dans notre pays, depuis la signature à Bamako de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. En témoignent les attaques terroristes perpétrées les 27 et 28 juin, respectivement contre le camp militaire de Nara et la ville de Fakola au sud du pays. Face à ces attaques, le gouvernement de la République du Mali réitère son appel à toutes les parties signataires de l'accord et à la communauté internationale à mutualiser leurs efforts et leurs intelligences pour bouter hors du territoire national un ennemi commun, à savoir les groupes terroristes et narco-djihadistes qui ne cherchent qu'à assouvir leurs appétits criminels au moyen de la peur et de la terreur.
Les 15 qui ont aussi prorogé jusqu'au 30 juin 2016 le mandat de la MINUAD, l'opération hybride de l'Union africaine et des Nations unies au Darfour. Enfin, la représentante spéciale du secrétaire général chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit se félicite de la décision du tribunal de Bosnie-Herzégovine dans le cas concernant les violences sexuelles perpétrées à Kotor Varoš pendant la guerre qui a démembré la Yougoslavie. Zena Bawa Bangura, qui déplore toutefois que trop de femmes en ex-Yougoslavie attendent toujours que justice soit faite alors que les auteurs de violences sexuelles commises pendant le conflit vivent en toute liberté. Isabelle Dupuis.
Bien que la guerre en Bosnie se soit achevée il y a près de 20 ans, Zeynep Hawa Bangura a estimé que le tribunal de la Bosnie-Herzégovine avait envoyé un message fort selon lequel il n'existe pas de sanctuaire pour les auteurs de violences sexuelles commises en période de conflit. Peu importe le temps écoulé, les auteurs des crimes les plus graves commis à l'encontre de l'humanité devront tôt ou tard répondre de leurs actes. Zeynep Hawa Bangura a souligné que cette décision démontre aussi l'importance de l'assistance juridique et des réparations accordées aux victimes de violences sexuelles commises en période de conflit. La représentante spéciale a d'ailleurs appelé tous les pays touchés par les violences sexuelles commises en période de conflit à mettre en œuvre des programmes de réparation pour venir en aide aux survivants et à leurs familles.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur l'actualité. Après la décision des autorités du Burundi de maintenir les élections ce lundi 29 juin, la mission électorale des Nations Unies au Burundi, la MENUB, suit de près, grâce à ses observateurs, le scrutin. À la mi-journée, le porte-parole de la mission, Vladimir Montero, indiquait qu'aucun incident n'avait été signalé. Dimanche, Ban Ki-moon s'est dit préoccupé par l'insistance du gouvernement à maintenir le scrutin. On écoute Vladimir Montero, joint par Priscilla Lecomte.
Nous continuons à recevoir les rapports de nos observateurs sur le terrain. Il y a eu un premier rapport la mi-journée. Comme vous le savez, la MENUB, dans le cadre de son mandat qui tient de la résolution 2137 du Conseil de sécurité, est en train d'observer ces élections. Elle observe d'ailleurs l'ensemble du processus électoral avant, pendant et après. Donc, nos observateurs se sont déplacés dans les différentes provinces du Burundi pour suivre ce processus afin de faire rapport au secrétaire général et ensuite au Conseil de sécurité.
D'accord, vous avez pu surveiller l'ensemble des élections sur tout le territoire, malgré la situation sécuritaire parfois difficile?
Oui, on a pu le faire. Nous avons des équipes déployées dans toutes les provinces qui sillonnent. Concernant la sécurité, comme vous le savez, le secrétaire général d'ailleurs a appelé le gouvernement du Burundi à assurer que ces élections se déroulent dans un environnement apaisé et par rapport à l'observation d'assurer la sécurité des observateurs des Nations Unies.
Donc il n'y a eu aucun problème pour les observateurs aujourd'hui. Ils ont tous pu accomplir leurs tâches dans de bonnes conditions.
Mais ils ont pu faire leur travail, ils ont pu se déplacer conformément aux activités qui leur étaient imparties ce jour.
quelles sont vos attentes, Vladimir Montero, pour les élections présidentielles qui doivent se dérouler bientôt ?
Par rapport à nos attentes, je pense que le secrétaire général les a soulignées la veille de ces élections dans son communiqué, n'est-ce pas, avec un appel aux politiciens burundais, aux leaders politiques burundais, pour qu'ils pensent d'abord aux intérêts du peuple et qu'ils retrouvent la voie du dialogue. Le secrétaire général a regretté le fait que la proposition, la suggestion de l'équipe de facilitation pour un report des élections n'ait pas été prise en compte, mais il parle même de l'intransigeance, il déplore l'intransigeance de certaines parties qui n'ont pas permis de parvenir à cet accord, mais il continue à appeler les acteurs burundais à travailler dans le sens de parvenir à une solution à travers le dialogue et sans violence. C'est la seule manière de consolider les gains obtenus après plus de 10 ans que ce pays a pu obtenir, le Burundi, un pays post-conflit.
Fréquence santé. Santé.
Au Soudan du Sud, des milliers d'enfants sont en danger de mort en raison des combats, de la faim et des maladies. 50 000 enfants risquent de mourir de faim. L'apparition du choléra aggrave la situation. À Djouba, le choléra risque de se répandre rapidement dans les abris surpeuplés qui accueillent les réfugiés. Depuis le début du conflit fin 2013, plus d'un million de personnes sont en fuite et la moitié sont des enfants. Christophe Boulierac, porte-parole de l'UNICEF, des propos recueillis par Alpha Diallo.
Il y avait eu un cas le 27 mai au site de protection de civils à Djouba. Et aujourd'hui, donc un mois plus tard, il y a 237 cas suspects alors à Djouba et autour de Djouba et 19 morts, dont 2 enfants. Sur les 237 cas suspects, 15% sont des enfants de moins de 5 ans. Le choléra, comme vous le savez, particulièrement dangereux pour les enfants.
Est-ce que vous avez beaucoup plus d'explications par rapport aux raisons qui ont amené cette épidémie de choléra dans cette zone ?
C'était évidemment lié, malheureusement, aux déplacements de civils et notamment des enfants. Il y a actuellement 800 000 enfants, nous estimons, qui sont déplacés internes et l'accès évidemment à l'eau propre dans ces conditions est toujours compliqué et c'est évidemment lié aux affrontements qui se sont intensifiés au Sud-Soudan ces dernières semaines.
Et l'épidémie se focalise sur plusieurs régions ou bien c'est dans tout le pays ?
Alors pour l'instant, c'est uniquement ces cas de choléra, c'est uniquement à Djouba et autour de Djouba. À notre connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas de cas de choléra dans d'autres régions du pays, mais c'est extrêmement dangereux. Hein. On estime que si la réponse n'est pas rapide et efficace, il y aurait 5000 enfants dans tout le pays qui pourraient vraiment être frappés par le choléra. N'oublions pas qu'il y a une situation de malnutrition très forte et qui fragilise beaucoup les enfants là-bas.
Alors, par rapport aux enfants, 15% des cas suspects sont des enfants. Ça explique un peu leur vulnérabilité par rapport au choléra ?
Le choléra, ça cause une déshydratation rapide et immédiate à cause de la diarrhée, à cause des vomissements, et ça tue les enfants très très rapidement. Donc 15% d'enfants avec potentiellement 5000 enfants qui peuvent être tués, c'est évidemment extrêmement grave. Et parmi les mesures de prévention qui ont été rapidement mises en place, puisque l'UNICEF participe activement avec ses partenaires, avec l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, sous la supervision du gouvernement du Sud-Soudan, il y a la prévention, il y a les campagnes de vaccination, les vaccinations. En 3 jours cette semaine, il y a eu plus de 25 000 personnes vaccinées au centre de protection de civils à Djouba et plus de 43 000 à Bentiu, au centre de protection de civils. C'est pratiquement la totalité de ce qu'il fallait faire, des cibles en termes de vaccination.
Dernière question, on sait que c'est la saison des pluies actuellement au Soudan du Sud. Est-ce que vous redoutez le pire avec cette épidémie de choléra ?
La saison des pluies, elle est clairement un facteur qui aggrave et qui augmente les risques et qui, oui, nous rend extrêmement inquiets. Mais tout cela se replace dans un contexte où il y a aujourd'hui 750 000 personnes dans l'un. Vous savez, il y a trois États au Sud-Soudan qui sont particulièrement affectés par les conflits. Dans le Upper Nile, il y a 750 000 personnes qui sont coupées de l'aide. Dans l'État de Unity, il y a 65% de nos installations de traitement de la malnutrition qui ont dû fermer à cause du conflit. Donc les enfants qui étaient déjà dans des situations de grande vulnérabilité en termes de malnutrition le sont encore plus. Et oui, la saison des pluies est un facteur aggravant et ça aggrave déjà une situation particulièrement critique pour les enfants.
Voilà, fin de ce journal de la Radio des Nations Unies, un journal à retrouver sur l'Internet. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.